18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, bonjour chers amis auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est parti, vous le savez, pour les informer, votre émission, votre magazine, 18h-19h30, c'est le vôtre d'ailleurs. Un seul numéro, vous êtes prioritaire, 0153-48-3000. Alors au menu, au sommaire de cette émission, crack, toujours évidemment dans une situation critique, démantèlement d'un camp vers la porte de la Villette. On va en parler avec Tarek Sassi, qui est le membre du collectif justement anti-crack que vous connaissez, qui a l'habitude de venir sur notre antenne. C'est l'actualité du jour. Au sommaire de cette émission également, le face-à-face avec des sujets qui ont retenu notre attention. La guerre en Ukraine, Moscou finalement, ou Poutine n'a-t-il pas perdu la guerre, puisque lui-même il promet de reprendre les territoires perdus dans les régions annexées. On en parle tout à l'heure. Danielle Obono, qui continue de faire parler d'elle, elle a été rappelée à l'ordre à l'Assemblée nationale. Elle rétorque, elle dit « Prenez tout, je m'en fous, rien à foutre. » Ça m'a été une clochette. Danielle Obono, qu'est-ce qui se passe? Venez nous voir sur l'antenne, désinformés, on va en parler, n'est-ce pas? Voilà. L'affaire Julien Bayou, pour l'avocate de son ex-compagne, il instrumentalise l'affaire à des fins personnelles. On n'est pas en train de jouer au ping-pong là. Elle est en panne, notre clochette, je vous préviens. Elle est un peu fatiguée, hein, vous voyez. Il faut lui donner à manger. On a oublié. Pardon, la réforme des retraites, des concertations, mais pourquoi faire? Oui, ça, c'est le ministre du Travail qui reçoit l'ensemble des partenaires sociaux pour une première séance de discussion. Ça se corse, dit donc, chers amis. Et puis, vous, au 0153-48-3000, un sujet qui fait continuer de faire de l'actualité. Faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Fallait-il se réveiller avant? J'ai envie de poser la question. Parce que, c'est vrai, n'est-ce pas le moment, pas en plein, en pleine Coupe du Monde, justement, pour saisir les questions qui peuvent nous interpeller? C'est peut-être le moment. Enfin bref, toute une série de stars, d'acteurs, ont évidemment livrer leur point de vue, et je voudrais qu'on partage nous aussi votre point de vue sur cette question-là. Allez, c'est parti, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Tarek Sassi. Bonjour Tarek Sassi. On a un problème avec votre connexion, mon cher Tarek. Voilà.
Bonjour Adil, vous m'entendez?
Ah, c'est mieux. Tarek Sassi, vous êtes membre du collectif Anti-Crack. Merci d'être avec nous. On vous connaît sur l'antenne puisque vous venez régulièrement. Tarek Sassi, justement, comment vous réagissez tout de suite concernant cette actualité? En ce moment même où je vous parle, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, est
nous
sur place. Vous êtes au courant. Vous réagissez
nous
comment?
Nous sommes au courant depuis une demi-heure, donc oui. Alors, comme dirait Madame Obono, on est en train de manger nos morts parce que les toxicomanes sont en train d'arriver en masse sur Porte de la Chapelle, dans un centre de Gaïa qui est sous un pont du périph' au niveau de Porte de la Chapelle. Donc, Madame Obono, c'est nous qui sommes en train de manger nos morts et là-dessus, on vous voit encore absente. Ce que je peux dire, en fait, c'est qu'encore une fois, c'est de l'inachevé. Il y a aucun suivi, il y a aucun recensement sur les personnes qui ont une volonté de se sevrer et ceux qui veulent avoir un simple parcours hospitalier, mais après ressortir sans rien avoir.
Oui.
Donc en fait, c'est de l'inachevé, c'est de la précipitation et on va le payer très très vite parce qu'aujourd'hui maintenant ils se sont renforcés parce que ces places ne sont jamais parties sur Stalingrad, sur Porte de la Chapelle et Porte de Clignancourt. Et donc, au final, c'est plus de mal pour ces quartiers populaires, sans soulagement, je pense, sur l'avenir futur pour Porte de la Villette ou même Pantin-Aubervilliers. Et nous avons réellement perdu un an de lutte.
Oui, parce que c'est pas faute de ne pas l'avoir alerté, c'est pas faute aussi également vous concernant de ne pas avoir interpellé les acteurs politiques. Vous l'avez fait, j'en suis témoin,
oui.
Vous l'avez même
oui.
dit ici sur l'antenne.
Oui, mais je le paye socialement, je le paye aussi auprès de la mairie de Paris, et je le paye aujourd'hui quand on organise des conférences ou des débats. Je suis exclu de ces conférences et de ces débats parce que, en tant que contradicteur de terrain et qui apporte des éléments factuels, les grandes personnalités qui soutiennent l'accompagnement à la consommation, voire la dépénalisation ou la légalisation des drogues, ils se sentent en fait désarmés devant un type de quartier qui explique tout simplement, en plus avec ses actions associatives, que tout ce qu'ils ont fait, c'est aggraver et pourrir encore plus nos quartiers, non seulement en déplaçant les drogués et en instituant aussi les organismes, les associations qui accompagnent la drogue, et en plus en installant toute l'ultra violence et les dealers dans nos quartiers.
Dites-moi, Tarak Sassi, vous êtes sur place d'ailleurs ou vous êtes sur place, vous ?
Ah non, moi là, je suis sur place à Porte de la Chapelle parce que maintenant, ils sont tous ici. Je suis sur place dans mon quartier. J'ai pas besoin d'être à Porte de la Villette. J'ai eu un entretien privilégié de 30 minutes avec Gérard Darmanin où je lui avais déjà donné tous ces éléments à l'époque des législatives. Il m'avait promis qu'il viendrait nous voir fin juin, début juillet. On est aujourd'hui début octobre. Nous avons été reçus au cabinet du préfet avec l'association La Remontée, la seule association qui a sorti des mineurs de ces camps de toxicomanes qui étaient victimes de prostitution et de trafic humain. Notre association qui aurait besoin de centaines de milliers d'euros pour pouvoir fonctionner est aujourd'hui sans ressources, alors qu'on donne des millions d'euros à Gaïa, Aurore et toutes ces associations qui sont maintenues et soutenues par l'ARS, alors que nous-mêmes, aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens d'agir. Nous ne pouvons pas embaucher les gens qui sont avec nous et qui méritent clairement un salaire. Et donc, on continue tout simplement, en fait, dans la même gabegie, à donner les millions d'euros aux mêmes associations qui ont eu des résultats pourris. Mmh. Et on reste dans ce même clientélisme.
Mais dites-moi, Tarak Sassi, le camp de toxicomanes qui était installé depuis un peu plus d'un an, d'ailleurs, on en avait parlé sur l'entraîne même ici même, à Porte de la Villette, qui est entre Paris, la Seine-Saint-Denis, il a été démantelé. Ils étaient au courant clairement ce matin, à la fois les toxicomanes, mais également les dealers.
Ils étaient au courant depuis lundi. C'est Gaïa qui a averti certains dealers et certains toxicomanes. Donc, il était vidé aux deux tiers. Aujourd'hui, on les retrouve tous sur Porte La Chapelle pour la grande majorité. Ils sont sous le pont. Et il y a clairement, en fait, un petit camp sous le pont du périph', entre Saint-Denis et Porte La Chapelle. Où tous les toxicomanes sont réunis pour pouvoir se reposer.
Alors, j'ai envie de vous poser la question, Tarak Sassi. 50 personnes, on parle de 50 personnes qui ont été interpellées, on parle aussi évidemment d'un démantèlement. Finalement, je vous pose la question, est-ce qu'il y a une solution ?
La solution, elle va se faire sur 10 ans de travail. Donc, une prévention massive auprès des publics jeunes. Un vrai travail de police déjà sur ceux qui font venir la cocaïne à travers les ports de France. Et les ports de France, ceux qui tiennent les cargos aujourd'hui, ce sont des gens extrêmement puissants. Et c'est pas le petit mot doux qu'on fait venir du Sénégal qui est le principal problème. Parce que demain, on vire tous les mots doux, on les revend au Sénégal. Ce seront les punks à chien ou ce seront un autre groupe qui s'occuperont de faire le deal. Donc, on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Ensuite, mettre en place une vraie politique de sevrage, de réinsertion pour ces personnes dans des endroits isolés, dans la nature, où ils peuvent se reconstruire, retrouver des réflexes, ne serait-ce que de bien manger, faire leur douche, le sport. Malheureusement, on a un projet clé en main qui a séduit beaucoup de toxicomanes qui sont dans le désespoir. La seule chose qu'on leur donne aujourd'hui, c'est plus de désespoir, plus de dispersion et plus de violence, sans amener de réelles solutions sur le terrain, en laissant toujours, bien sûr, la mainmise aux apôtres de l'accompagnement à la consommation des drogues.
Tarak Sassi, vous, membre du collectif Anti-Crack, je vous pose la question parce qu'effectivement, je vous ai entendu dire que le problème, finalement, s'est déplacé de la Porte de la Villette à Porte de la Chapelle. Donc, on a déplacé le problème.
On a, je dirais pas qu'on a déplacé, on a renforcé le problème parce qu'à Porte de la Chapelle, il n'y a jamais rien qui a changé. Si vous le savez certainement qu'il y a de plus en plus d'articles de presse qui parlent de la Chapelle internationale ou encore de Rosa Parks. Ce sont des nouveaux immeubles avec des nouveaux HLM où les gens ne veulent pas habiter à cause de la réputation et de ce qui se passe dans ces quartiers.
Alors, le Porte de la Vitesse a été démantelé. Alors, en ce moment même où on se parle, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, est sur place. Est-ce que ça va faire avancer, évidemment, les choses ?
Ben, s'il aurait voulu faire avancer les choses, il nous aurait rassemblés, il nous aurait rencontrés. Aujourd'hui, le quartier est fermé, on ne peut pas ni voir le préfet, ni voir le ministre. On n'a pas été du tout reçus, ni même parlé. On a été reçus individuellement. Aujourd'hui, on a besoin d'être reçus. Aujourd'hui, on a besoin de mettre des moyens sur la table. On a besoin de remettre la politique de la ville en place. Ils ont décidé aujourd'hui de ne plus embaucher des gens en tant que fonctionnaires pour s'occuper de la politique de la ville, mais de subventionner des associations. Je fais partie de ces associations qui souffrent depuis la crise sanitaire parce qu'ils ne sont plus subventionnés. Aujourd'hui, soit ils nous donnent des moyens, soit ils vont faire qu'augmenter la crise. Avec la crise sociale qui arrive, la toxicomanie va ne faire qu'augmenter, le trafic de drogue ne va faire qu'augmenter, l'ultraviolence ne va faire qu'augmenter. Je pense qu'on ne prend pas vraiment étude des erreurs américaines depuis 70 ans et on fait tout le contraire. Au lieu de traiter l'affaire comme The Shield avec Vic Mackey, on traite ça comme Plus belle la vie et au final, au lieu de traiter ça sérieusement, on fait que le pérenniser, voire l'aggraver.
Quelle est votre alerte, Tarek Sassi ? Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vous écoutent ? Je parle des acteurs politiques justement. Quel est votre message principal ? Parce que c'est vrai, je vous toutes les fois où je vous ai reçu, systématiquement préoccupé, et c'est normal à juste titre, en colère parfois aussi.
Alors, moi je leur dirais, messieurs, dames, arrêtez d'installer la drogue et les drogués dans nos quartiers en les faisant déplacer, en mettant des structures spécialement dans les quartiers populaires. La pauvreté n'est pas synonyme forcément de toxicomanie. Les quartiers populaires ne sont pas synonymes de trafic de drogue. Je n'ai pas de cuisine de crack chez moi, donc je n'ai pas à supporter toutes les installations qu'il y a en bas de chez moi. J'aimerais en fait pouvoir vivre tranquillement et j'aimerais aujourd'hui aussi, surtout, qu'on puisse donner les moyens à la réinsertion, à la prévention auprès des plus jeunes et surtout mettre l'accent sur les mineurs qui sont victimes de viols, de prostitution, de trafic humain. Une fois qu'on les a drogués, on a exposé avec l'association La Remontée plus d'une fois des cas et extrêmes. Malheureusement, la télé n'a pas trouvé digne de nous mettre en avant parce que aujourd'hui des Arabes dans un rôle citoyen, c'est pas forcément vendeur. On préfère des Arabes qui font du rodéo dans les cités et du rap. Et malheureusement, les mineurs aujourd'hui sont les premières victimes. Ce sont ceux qui vont être de plus en plus frappés par ça et qui vont être victimes de tous ces trafics, de cette nébuleuse.
Tarek Sassi,
des gens de bonne famille.
Tarek Sassi, ceux qui font le rapprochement entre toxicomanie, drogue et immigration, vous répondez quoi ?
Alors moi, un rapprochement sur la dimension sociale et je ferai un rapprochement aussi sur l'historique des quartiers des États-Unis parce que nous en France, on a des crises qui nous arrivent en retard. Donc j'ai la connaissance des quartiers de Vancouver, des quartiers de Montréal, des quartiers de New York et de New Jersey parce que j'ai vécu 2 ans là-bas.
Oui.
Et ce qui se passe maintenant aujourd'hui à Paris, je l'ai vu il y a 10 ans là-bas. Je l'ai vu il y a 10 ans là-bas. Et aujourd'hui en France, tout ce qu'on a, c'est des Éric Zemmour qui vont nous dire que c'est la faute à Rachid, c'est la faute à Mourad, c'est la faute à Boubacar. Que il faudrait peut-être se rappeler qui fournit la drogue à Rachid, Mourad et Boubacar. Il faudrait peut-être se rappeler de ça. Et monsieur Zemmour, essayez de faire un petit peu plus de la politique internationale. Soyez plus humaniste que les humanistes. Et à mon avis, je pense que il y aura des gens qui voteront pour vous. Mais là, vous êtes loin de ça. Vous êtes tout le temps dans les raccourcis. Vous êtes
Dernière question, puisqu'on va marquer une pause. Comment vous voyez les choses à terme, mon cher Tarek Sassi? Parce que je sais qu'il y a un peu plus d'un an ou un an à peine, vous m'aviez dit que vous étiez inquiet, préoccupé par la montée en puissance, justement, de ces toxicomanes.
Malheureusement, vu que rien n'est engagé, les chiffres vont ne faire qu'augmenter. Les faits divers violents ne vont faire qu'augmenter. Aujourd'hui, ce n'est pas que Paris, c'est Bordeaux, c'est Alençon, c'est Limoges, c'est Rouen, c'est aussi des villes comme Nice qui sont frappées, c'est Lyon, c'est Grenoble. Malheureusement, à chaque fois, la seule réponse qu'on donne, c'est l'accompagnement à la consommation, sans prévention, sans action policière réelle, sans action judiciaire réelle et sans travail de sevrage et de réinsertion.
Merci infiniment. C'était important que vous soyez avec nous, Tarek Sassi.
Merci beaucoup. À vous, à Beurre FM, et de toujours me donner la parole. Merci.
Mais écoutez, c'est le lieu aux informés sur Beurre FM, membre du collectif Anti-Crack, Paris Anti-Crack, pardon. Tarek Sassi, merci, à très bientôt. On marque une pause. Et merci. On se retrouve tout de suite après, justement, pour parler de ça avec vous. 0153 48 3000. Est-ce que vous êtes préoccupé? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sensibilisez vos enfants, justement, sur la question de la drogue? Est-ce que c'est quelque chose que vous en parlez librement avec vos enfants? Et puis, second sujet, je voudrais qu'on parle de la Coupe du Monde. Elle commence à être boycottée partout. Lyon, Marseille, Reims, Toulouse, demain, ça sera discuté à l'ordre du conseil municipal. Vous vous rendez compte? On est en train de nous dire qu'on ne veut pas faire la promotion de la Coupe du Monde de football. Eh bien, à tout de suite, on en parle au 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h24, on ouvre l'antenne, jingle tout de suite, vous savez quoi, les auditeurs ont la parole, 01 53 48 3000, je voudrais vous entendre partout en France, comme d'habitude, aussi nombreux, évidemment, que possible. Tout de suite, maintenant, à la fois sur la question de la drogue, est-ce que vous sensibilisez vos enfants, parce qu'on en parle de plus en plus, les jeunes ados sombres, paraît-il, et puis surtout, ils tombent évidemment dans ce que vient de dire Tarek Sassi, qui est dans le collectif, membre du collectif Paris Anti-Crack, il en a parlé, vous l'avez écouté. Second sujet, la Coupe du Monde, le boycott. Ils disent qu'ils ne sautent pas, la Coupe du Monde n'est pas lyonnais. On parle de Reims, on parle de Lyon, on parle de Marseille, on parle de Toulouse qui va trancher. On parle de plusieurs villes, de plus en plus, après Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon. Eh bien, sachez que il y a un appel à boycotter tout simplement la Coupe du Monde de football organisée au Qatar. C'est à quelques semaines, hein, d'ailleurs, hein, je vous le rappelle. Là, dans les jours à venir, quelques semaines. Donc je voudrais vous entendre, chers amis, 01 53 48 3000. Est-ce finalement, n'est-ce pas un peu trop tard d'appeler au boycott de la Coupe du Monde, franchement, ou tout simplement, est-ce qu'il ne faut pas saisir la Coupe du Monde justement maintenant pour parler des questions qui peuvent fâcher? 01 53 48 3000. Je vous attends au standard. Sabrina de Toulon. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites, Sabrina?
Excusez-moi, je n'ai pas. Ah non, c'est le sourire du Sud. Je n'ai pas la radio à la maison.
Oui.
En fait, je vous écoutais dans ma voiture et en rentrant, je disais, je vais les appeler parce que moi, je voudrais faire part de mon,
bah bien sûr,
de
vous
mon
avez
témoignage.
Mais vous savez, vous faites l'application Uber FM et vous l'avez en temps direct. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sabrina?
Pour l'instant, je suis reconversion.
En pleine reconversion.
Oui.
Reconversion de évidemment, dans quel domaine?
Alors justement, moi, avant, je travaillais dans le tourisme. Ensuite, j'ai suivi mon mari au Moyen-Orient et notamment à Dubaï et au Qatar.
Oui.
Donc, c'est pour la raison pour laquelle je vous appelle, en fait, parce que moi, le Qatar, c'est un pays que j'ai adoré.
Le Qatar, c'est un pays que vous avez adoré?
Ah oui, et qui n'a rien à voir.
Alors
avec
qu'on
n'arrête
pas de taper sur le Qatar.
Dites-nous,
exactement. Ça tombe bien. On vous écoute, vous qui connaissez le Qatar. Alors, dites-nous tout.
Alors, moi, je suis en colère parce que ce sont des gens qui n'y ont jamais mis les pieds.
Oui.
C'est un pays extraordinaire.
Vous
c'est un
vous
pays
dites,
de
je
gens
suis
éduqués.
En colère.
Oui. Ah oui, je suis en colère parce qu'en fait, on critique un pays qu'on ne connaît pas, où on n'a jamais mis les pieds. Parce que je peux vous assurer que les personnes qui y vivent, notamment une grande forte population de Français qui habitent là-bas,
c'est vrai.
Croyez-moi, ils sont très contents d'y être, ne serait-ce que par rapport à la sécurité, par rapport à la sécurité de l'emploi, parce que les salaires sont quand même très intéressants, on n'y va pas pour rien. Le cadre de vie, c'est un cadre de vie familial. Moi, j'ai eu la chance de vivre à Dubaï et au Qatar. Et bon, Dubaï, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup d'activités pour toutes sortes de personnes, c'est-à-dire les familles, les célibataires, etc. Mais moi, j'ai préféré le Qatar parce que c'est vraiment une destination familiale où ils sont en sécurité, il y a beaucoup de loisirs pour les enfants. Ce sont des gens qui sont éduqués, qui sont à votre écoute, qui sont... Vous avez la religion que vous voulez à partir du moment où vous n'étalez pas en pleine rue. Ouais. Je veux dire, moi, je comprends pas, en fait.
Vous comprenez pas cet appel du boycott, au boycott?
Mais pas du tout, d'autant plus que ça paraît tellement absurde. En novembre,
absurde.
Au Qatar, ouais. Il fait dans les 20-25 degrés.
Oui.
Donc la climatisation, elle va pas se poser en fait.
Oui.
Ce sera en novembre et pas. Alors effectivement, vous n'y allez pas de mars à septembre parce que vous ferez 50 degrés, effectivement. Mais la Coupe du Monde ne se déroule pas.
Bah là, c'est bientôt là. Hein.
Voilà.
Vous savez que c'est quasiment le 20 novembre, c'est dans 45 jours là. Hein.
Voilà, ben moi je vous invite à regarder les températures qui sera en novembre au Qatar et en décembre. Ça va frôler les 20-25 degrés, pas plus.
20-25.
Donc ce sont des gens en fait qui se permettent de critiquer.
En ce moment, c'est du 30-35 degrés.
Voilà, d'ici deux mois, ça va tomber entre 25 degrés, un truc comme ça en fait. Au Qatar, oui. C'est comme ça en fait. Donc, je veux dire, la question de la climatisation ne va pas du tout se poser.
Oui.
Bien au contraire, je pense que ça va être un pays qui va être découvert c'est parce que tout le monde veut le boycotter, mais montrer la nouvelle ville, montrer le modernisme, montrer l'hospitalité, c'est ça qu'il faudra montrer du Qatar.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que vous connaissez le Qatar. Donc, vous mesurez vos propos. Vous trouvez cela absurde de vouloir boycotter la Coupe du Monde.
Ben, tout à fait, parce que c'est une question de climatisation.
Vous entendez le message, justement ? Non, le message, c'est deux sujets, principalement, qui fâchent, qui divisent.
Oui.
Le boycott, il est appelé parce que, un, effectivement, on parle des droits de l'homme. Et on fait référence à tous ces ouvriers qui sont morts sur les chantiers. Souvenez-vous.
Oui, alors moi, je vais vous dire une chose, en fait, par rapport à ces ouvriers-là. Alors, effectivement, parce que vous avez deux sortes de comment on appelle ? Comment je dirais ? J'oublie mes mots, d'expats. Alors oui. Effectivement, vous avez les pays qui sont occidentaux, alors là, vous avez une très bonne situation, avec un très bon salaire, etc. D'autre part, vous avez des pays, effectivement, qui viennent d'Asie, oui. Mais ces gens-là, excusez-moi, parce que moi, je les ai côtoyés, finalement, ce sont des gens qui n'ont pas de travail dans leur pays.
Oui.
Et ce sont des gens, parce que le problème, c'est qu'en France, on pense avec la culture française, on pense avec les droits de l'homme, on pense avec ce dont on connaît simplement. On peut pas comparer quand on n'est pas ailleurs et qu'on n'a pas ces gens-là, ils ont l'opportunité d'avoir un travail. Alors effectivement, ce sera pas payé comme un salaire d'expatrié occidental,
oui.
Mais ce sera un salaire qui leur permettra, parce que chaque mois, moi je le voyais, chaque mois, à chaque fois qu'ils recevaient leur salaire, ils envoyaient l'argent dans leur pays d'origine. Ça permettait de nourrir la famille.
Mais là, on parle de ces centaines d'ouvriers morts en plein chantier. C'est ça qu'on reproche, si vous voulez.
Alors, moi, je veux bien qu'on en apporte des preuves, en fait, finalement. Parce que dans les chantiers, dans tous les chantiers du monde, il y a des accidents, malheureusement.
Bon, j'essaierai le son aux auditeurs, évidemment, d'intervenir. 01-53-48-3000. Partout en France, je voudrais vous entendre, notamment, réagir aux propos, au point de vue de Sabrina de Toulon, également aussi. 01-53-48-3000, je vous attends, le standard est ouvert.
Et si je pouvais rajouter une chose?
Oui.
Il n'y a pas de queue homme-femme dans les magasins, c'est ce que j'ai entendu aussi par rapport au Koweït, au Qatar.
Oui.
Parce que moi, je m'habille en civil.
Oui.
Je sortais avec mes amis au restaurant très tard le soir. Il m'arrivait de rentrer à la maison à 1h, 2h du matin.
Oui.
Vous avez des caméras de partout, vous avez des policiers qui tournent dans toute la ville. Et on était des femmes.
À Doha.
Donc
vous êtes en train de me dire que c'est hyper sécurisé.
Alors, écoutez... J'en pleure parce que bon, je suis revenue en France. Bon, c'est mon pays que j'aime aussi. Mais je veux dire, au niveau de la sécurité, je veux dire, il n'y a pas de photo. Et moi, je ne comprends pas quand on dit on bafoue les droits des femmes, etc. Moi-même, je suis une femme.
Donc, Sabrina de Toulon, vous ne comprenez pas ce boycott?
Non. Bon. Non, pas du tout.
Eh bien, les auditeurs vont réagir.
Alors,
merci, Sabrina.
Alors, on peut boycotter aussi les produits chinois puisqu'ils polluent. Donc, je veux dire, dans ces cas-là, on s'habille plus. La climatisation en France, on l'utilise plus parce que ça pollue aussi à notre niveau. Je veux dire, que c'est une de mes meilleures destinations d'expatriation, le Qatar, et que je suis très heureuse que ce soit un pays musulman qui montre l'exemple. Parce que, je vais juste résumer, je vous laisse tranquille.
Non, mais vous avez vécu là-bas, donc je vous parlais de votre vécu. Merci, Sabrina.
Exactement. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis j'espère que ça pourra amener les gens à réfléchir et justement à aller se renseigner correctement et ne pas dire de bêtises.
Eh bien, on va les écouter au 01-53-48-3000 pour l'heure. Ne bougez pas, Léa de Paris, Abdel de Paris et tous les autres au 01-53-48-3000.
Voilà.
Le Quoi de Neuf, tout de suite, c'est parti.
Merci beaucoup.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec le grand El Professeur, Dr Majid Seyoussine. Bonsoir.
Bonsoir, mon cher Adil.
Chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aux Invalides, chez les militaires et au SAMU. Quelle classe internationale, ce docteur Majid Seyoussine. Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, votre édito, autour de la question de la justice. On vous écoute, à vous la parole, comme dirait l'autre.
Eh ben oui, mon cher Adil, cette semaine, c'est vraiment le bazar. Athéna, la déesse de la justice, comme vous le savez, ne reconnaît plus ses petits. Elle pleure. Et c'est vrai qu'il y a de quoi. On n'y comprend rien. Le garde des Sceaux vient d'être mis en examen devant la Cour de justice de la République, qui est une juridiction d'exception, où les gens du pouvoir se jugent entre eux, et vient donc d'être mis en examen devant cette Cour pour avoir grosso modo utilisé sa fonction pour se venger des magistrats qui s'étaient opposés à lui quand il était avocat. Mmh. Un peu comme si un prof collait des zéros aux enfants des parents de ses meilleurs ennemis. Ou que moi, je me vengeais de vous en vous collant directement en soins palliatifs alors que vous viendriez me consulter pour un ongle incarné.
Pardon, docteur, mais ça va pas ou quoi? Non, mais arrêtez. Bon, on vous écoute.
Et ce n'est pas fini, mon cher Adil.
Aïe.
Alexis Colère, dit le glaçon, qui est juste, juste.
Qui vous est allez juste vous créer des problèmes, vous. Je...
C'est pas grave, on ira tous les deux en prison, on va bien s'amuser.
Vous allez
vous
créer des problèmes. Hein. Oui.
Alexis Colère.
On va se régaler en prison, vous et moi, oui.
On va s'éclater. Ouais. Qui est juste le bras droit du président, et quant à lui, placé sous le statut de témoin assisté, pour avoir eu le sens de la famille. Ce qui n'est théoriquement pas un crime, sauf quand ça devient du conflit d'intérêts parce que l'on favorise ses cousins dans une affaire de fret maritime. Le plus rassurant, c'est que le parquet national financier qui avait classé sans suite une première plainte a été désavoué par la justice, preuve de son indépendance, ce qu'il faut à tout prix préserver. Mais attendez, Adil,
oui.
Ce n'est pas fini.
Oui.
De l'autre côté de l'échiquier, Adrien Quatennens, dit Adrien Lamandal. Arrêtez de rire. A été auditionné après le dépôt de plainte de son épouse, qui a déposé en plus une nouvelle main courante au sujet de SMS un peu hargneux.
Il a craqué, le docteur. Il a complètement craqué.
Attention, vous allez vous
lâcher. Je pleure. Je pleure, mon Dieu. Oh là là.
Donc, Julien Bayou, ex-secrétaire national des Verts, n'est quant à lui pas mis en examen, mais il a quand même dû démissionner et se mettre en retrait pour des comportements dont on aurait dit il y a quelques années, à l'époque où ça existait encore, qu'ils ne sont pas dignes d'un gentleman. Et c'est là où je tombe de ma chaise.
Oui.
Ce qui, soit dit en passant, fait assez mal au coccyx. Ça fait mal au coccyx.
C'est ça.
On découvre que dans un parti qui se veut démocratique et de gouvernement, qu'il existe une cellule contre les violences sexuelles et sexistes,
ouais.
Ce qui est très très bien.
Ouais.
Mais il semblerait qu'une des membres de cette section soit aussi membre d'une espèce de milice, les Louves Alpha, qui en dehors de tout contexte légal, suivent, espionnent, et au final, se font justice toutes seules.
C'est ça.
Et que dire de Sandrine Rousseau, qui s'improvise procureure nationale, garante de la morale et du bien, devenue une espèce de Torquemada en roue libre.
Vous allez vous faire des amis, vous. Ah, des vrais amis, vous allez voir.
Ah, j'en ai plein. Oh. Il paraît que même DSK a peur d'elle. Et c'est peu dire. Ces néo-féministes font souvent preuve d'une intolérance et de comportements proches de la police des mœurs iraniennes.
Ouais.
Quand, par exemple, elle demande à Elisabeth Badinter de se taire,
ouais,
parce qu'elle ne pense pas comme elle.
C'est
faisant
ça.
Preuve d'une ingratitude incroyable.
Ouais, n'importe quoi.
Il ne manquerait plus que Lula, ex-Tolar, soit élu pour que le tableau soit complet. Tête haute et main propre. Tel était le slogan du Front National autrefois. On voudrait lui préparer le terrain qu'on ne ferait pas mieux.
On peut l'applaudir. Franchement, bravo, le professeur Dr. Seocine. Quelle plume, quelle plume. Mais écrivez un livre.
Bah écoutez, il faudrait que je trouve le temps.
Bon, vous allez
ou alors que,
le
je
temps.
Que je trouve un ghostwriter, parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser le mot dont se servait Alexandre Dumas, qu'il était lui-même.
Merci, mon cher docteur.
À votre service.
Au plaisir.
Et
de
rendons hommage à un prix Nobel de physique.
Oui, vous avez raison.
Qui se trouve être français,
oui.
Ce qui est quand même assez rare. Et on félicite souvent les footballeurs. On félicite souvent les footballeurs, mais il faut citer le nom de Alain Aspect, qui est prix Nobel de physique, parce qu'il a réussi à prouver que Einstein s'était trompé, ce qui n'est pas peu quand même.
Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est énorme. C'est
énorme. Énorme.
C'est vrai.
Énorme.
C'est énorme. Énorme, tout simplement. Bravo, docteur Majid Soussine. Prenez soin de vous.
À votre service. À
on
bientôt.
Marque une pause. Léa, tiens, je vais juste accueillir Léa. Je vais lui dire bonjour. J'ai le temps ? J'ai le temps. Léa, ma chère Léa. Bonjour Léa de Paris.
Bonjour.
Comment ça va, ma chère Léa?
Bah écoutez, ça va très bien.
Bon, vous nous avez... qu'est-ce que vous faites dans la vie, Léa?
Étonnamment, je suis dans le bâtiment, donc forcément, ça me touche.
Bah c'est bien. Pourquoi vous dites étonnamment? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Vu que vous parlez un peu du Qatar et ce qui se passe sur les chantiers.
Allez, parlons-en. Justement, vous avez quelques minutes avant la pause. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
J'en pense que tout le monde a raison de boycotter. Il y a quand même eu depuis 2006.
Elle va pas être contente, Sabrina de Toulon. Vous l'avez écoutée, Sabrina de Toulon?
Mais je pense que elle, c'est un cas à part. Justement, je vais rebondir à ce qu'elle dit un peu.
Allez-y.
Oui, je pense qu'elle a une bonne situation, donc elle peut se permettre aujourd'hui d'avoir ce discours. Mais quand on sait qu'il y a plus de 6500 travailleurs migrants qui sont morts depuis 2010. À un moment donné, c'est des chiffres qui glacent le sang, quoi. Donc, c'est malheureusement des personnes qui viennent de l'Inde, du Pakistan.
Donc, vous lui répondez quoi, Sabrina de Toulon?
Je lui réponds qu'en fait, elle est loin de la réalité et que la réalité, ce sont vraiment ces chiffres-là. Ils n'ont pas été inventés. Quand on sait qu'il y a eu des manifestations, justement, de ces travailleurs sur chantier, de ces compagnons, parce que justement, ils n'étaient pas payés et qu'on les a virés du Qatar où la plupart sont emprisonnés, à un moment donné, oui, bien évidemment qu'on se pose tous la question. Et moi, j'y crois aussi, 1500, et je suis pour le boycott.
Vous êtes pour le boycott, vous, de la Coupe du Monde. N'est-ce pas un peu trop tard, ma chère Léa?
Peut-être qu'on est trop tard, mais il n'est jamais trop tard dans la vie.
Bon. Écoutez, ça va faire réagir d'autres auditeurs. 01-53-48-3000. C'est votre numéro, c'est votre espace de liberté d'expression. Allez-y comme Léa et Sabrina. Léa, merci beaucoup.
Je vous en prie. Et puis, j'espère qu'elle sera boycottée, cette Coupe du Monde.
Ça, Qatar. C'est vous. Ça n'engage que vous.
Oui.
Bon. Allez, on marque une pause. Merci. On se retrouve avec Monia. Monia, je vais juste lui dire bonjour en attendant la pub. Monia, bonsoir, Monia.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Monia?
Pareil, je suis issu du domaine du bâtiment et je suis sensible aussi à cette cause.
Ne bougez pas, restez avec nous. Dans une poignée de minutes, je vous récupère pour parler de ce boycott au Qatar, de la Coupe du Monde, je parle bien sûr. Et ensuite, on a tous les autres appels 01-53-48-3000. Monia, à tout de suite.
À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h45, les informés, c'est vous. Au 01-53-48-3000, je reprends Monia et ensuite après, je vais accueillir les débatteurs influenceurs, notamment pour la série de sujets qui nous attend. Il y a Mohamed aussi du 18e, je pense. Bon, c'est marqué 18e. Pareil, 18. Monia, vous êtes avec moi?
Oui, je suis toujours là. Bonsoir à tous et à tous vos auditeurs dont je fais partie.
Exactement.
Je voulais intervenir un peu sur les deux sujets, mais je préfère intervenir sur le sujet du Qatar.
Oui.
Et sur le boycott dont on parle actuellement partout. Oui. Après, le sujet, on peut le voir de différentes manières. Oui. Alors, certains parlent de l'écologie et de l'énergie qui va être utilisée pendant les Jeux. Et d'autres parlent des droits de l'homme. Après, on peut parler sur les deux sujets. On peut dire plein de choses positives ou négatives.
Oui.
Parlant de droits de l'homme, par exemple... le traitement des gens, je parle des gens que je connais très très bien, de la famille qui travaille justement au Qatar, le traitement c'est simple, on traite les gens avec un traitement particulier, comme vient de citer la dame, les expats européens ou américains, ils sont traités d'une manière, les Africains, je parle des intellectuels, ils sont traités d'une autre manière, alors les Asiatiques qui viennent pour des petits boulots, effectivement, ils sont pas du tout valorisés ou ils sont pas assurés. Ils vivent dans des conditions lamentables. Et je reviens aussi pour ceux qui travaillent très bien. Sachez que les enfants qui naissent au Qatar et les gens qui travaillent au Qatar, ils n'ont pas de retraite. Certes qu'ils ont des salaires énormes, mais ils n'ont aucune assurance comme si,
est-ce que c'est vrai, là, paraît-il, qu'on retient vos passeports pendant la durée?
Justement,
de...
je vais y revenir. Il y a aussi une autre condition pour ceux qui viennent travailler au Qatar.
On retient votre passeport.
C'est ce qu'on appelle un tuteur.
Oui.
Quand vous arrivez sur le territoire, il y a un tuteur ou un sponsor, tout dépend, les domaines. Et votre sponsor, c'est une entreprise. Il faut que ça soit une entreprise reconnue. Tout dépend de votre poste. Si vous êtes un poste important, elle ne retient pas votre passeport, mais elle garantit que vous êtes bien sur son territoire et elle est garante de votre présence sur le territoire. Et si vous faites un boulot un peu de service, effectivement, il tient votre passeport et vous dépendez d'eux pour vous déplacer.
Alors, ma chère Monia, est-ce que vous appelez, vous êtes comme tous les autres, là, tous ces maires qui se multiplient de plus en plus, qui appellent au boycott de la Coupe du Monde? Vous dites quoi?
Moi, je ne suis pas pour boycotter un événement sportif qui rend le monde entier joyeux, mais au contraire, on peut trouver de différentes manières, une manière de soulever des sujets en faisant des petites banderoles ou des choses de manière simple et pacifique, pour justement... Puisqu'on est sur le territoire du pays, quand on est étranger, on est mieux écouté. Et quand on est sur place, quand on défend une idée, on le dit d'une manière poétique ou plus sportive ou plus joyeuse pour passer une information si importante que celle-là.
Merci Monia pour votre témoignage.
Voilà. Plein de détails à
très bientôt sur notre antenne aux informés.
Merci à vous. Au revoir.
Allez, Mohamed qui nous appelle de Paris 18. Merci Monia. Mohamed, bonsoir, mon cher Mohamed.
Bonsoir, Fahadi.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Mohamed?
Je suis agent de sécurité.
On vous écoute, mon cher Mohamed. Bienvenue.
J'habite dans le Cher, hein. C'est pas à Paris, c'est le 18, c'est le département.
Département du Cher, on avait compris, Paris 18. Bon.
Donc,
on vous écoute.
Je voulais juste intervenir par rapport à cette question du boycott du Qatar.
Oui.
C'est vrai que les auditeurs ont un petit peu parlé, en délicat, que chacun a le droit de s'exprimer. Et comme l'a dit la dame, il faudrait savoir que tous les pays du Golfe traitent de la même manière les personnes, les ressortissants. Hein, que ce soit les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la confiscation du passeport se fait à l'entrée de l'aéroport du pays. Donc ça, c'est pas spécifique au Qatar. Après le boycott, pourquoi le Qatar? On nous annonce l'Arabie Saoudite qui veut organiser les Jeux Olympiques d'hiver.
C'est ça.
Personne n'en parle. Hein,
ça commence. La presse commence à en parler.
Voilà. Donc moi, je pense que boycotter un événement, c'est pas la solution, mais plutôt travailler sur ces questions. Bon, pourquoi? Parce que en ce moment, on a un problème d'approvisionnement énergétique. Si on pense en termes d'écologie, c'est une question plus vaste. C'est des sujets qui demandent du temps. Et c'est pas à l'approche d'un événement qu'on commence à traiter ou à penser écologie. Donc de ce sens-là, et parce que en même temps, il faudrait pas qu'on oublie tous les jours, on entend les grandes marques qui fabriquent les vêtements dans les pays asiatiques. On en parle à bas coût, dans la souffrance, mais on boycotte pas.
En tout cas, sachez que beaucoup d'acteurs dans le cinéma français, effectivement, dont certains noms célèbres, disent pourquoi prendre le spectateur en otage. Beaucoup l'ont déploré, notamment. Merci, mon cher Mohamed.
Je vous remercie, en tout cas.
À très bientôt. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Comme tous les soirs, d'ailleurs. Et vous savez que ça fait chaud au cœur, aux informés. C'est parti, les face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Ouais. Beaucoup d'auditeurs nous appellent, mais bon, vous savez qu'on ne peut pas prendre tout le monde, malheureusement. Gamal Abina, bonjour. Gamal Abina ?
Oui, bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Tout va bien ?
Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la discussion sur le Qatar. J'aimerais bien intervenir d'ailleurs là-dessus.
Allez-y, vite fait, rapidement.
Très rapidement, moi, je considère que d'abord, le boycott, c'est vraiment honteux parce que c'est pas les Jeux Olympiques de Berlin, on n'est pas chez les nazis. Les questions d'écologie, apparemment, ça n'intéresse plus personne par rapport à ce qui se passe actuellement en Europe. Hein. On rouvre les centrales à charbon. Ensuite, les questions de droits de l'homme, ça fait bien rigoler parce que si on devait comptabiliser les pays qui respectent les droits de l'homme, il ne resterait pas grand-chose. Et puis surtout, je rappelle, et c'est intéressant de le rappeler, que les Échos viennent de titrer il y a quelques mois que la part du lion des entreprises françaises était très grande au Qatar. Il s'était taillé la part du lion précisément parce que c'est elles qui font travailler ses ouvriers. Donc les conditions de travail déplorables que les entreprises occidentales, et non pas qataris, les qataris sont incapables de fabriquer un immeuble. C'est fait par les occidentaux.
C'est vrai.
Eh bien les conditions de dégradation des ouvriers, ils sont à la fois dirigés effectivement par les qataris, mais avec la collaboration étroite de ces entreprises qui elles-mêmes manifestement ne s'intéressent pas trop au sort de leurs ouvriers. Donc il faut se rappeler cette première chose. Et deuxième chose, mais depuis quand les constructions monumentales qui ont été faites à travers le monde ne conduisent pas à la mort malheureuse de milliers d'ouvriers? J'aimerais connaître le chiffre de nombre d'ouvriers qui meurent par an dans les chantiers. Vous seriez atterrés.
Atterrés, c'est le terme. Thierry Vincent, bonjour, journaliste, comment ça va?
Ah ben ça va pas mal.
Bon, très bien.
J'aimerais bien dire un petit mot aussi sur le Qatar.
Allez-y. Atterré aussi?
Pardon?
Atterré aussi?
Non, enfin bon, le boycott, ça vient trop tard, mais je veux dire, c'est quand même absolument scandaleux qu'on ait donné cette Coupe du Monde au Qatar, parce que normalement, ça devrait être sur des critères sportifs. Ils ont jamais rien montré au niveau foot. Ils ont jamais été qualifiés pour une
Coupe du Monde. C'est ça, surtout.
Donc il y a vraiment aucune raison. On le donnerait à l'Égypte, ouais. Ça me choquerait pas du tout. Et en dehors de ça, bon, les droits de l'homme, c'est vrai qu'il y a malheureusement pas beaucoup de pays dans le monde qui les respectent. Malgré tout, les morts sur les chantiers, oui, d'accord, il y en a partout, mais enfin, là, il semblerait qu'il y en ait plus. Enfin, là-bas, je pense que les conditions de sécurité, c'est pas tout à fait les mêmes qu'en Europe. Et c'est quand même très problématique, quoi. C'est un peu un pays esclavagiste. Alors, pour rebondir juste dernier mot sur les entreprises françaises, pourquoi ne pas les citer, hein? À la tête du consortium, c'est Vinci, c'est toujours les mêmes, hein. Voilà, entreprise, bon, qui est un peu partout dans toutes les dictatures, hein. On les voit en Russie aussi, bon.
Absolument. Voilà. Je laisse le soin aux auditeurs de réagir si vous le souhaitez au 01 53 48 3000. Je dois marquer une pause là? Non. Ah bon? Bon, bah on va marquer une pause et on va parler de Kadyrov, qui est promu général par Vladimir Poutine. Que doit-on comprendre? Et puis, finalement, je vous pose la question, est-ce que Poutine n'a pas perdu d'ores et déjà la guerre? À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Les 18h56, le face-à-face, vous savez, c'est avec Gamal Abina, mais également avec Thierry Vincent. Messieurs, Kadyrov, le président de la Tchétchénie, qui est promu général par Vladimir Poutine. Alors, Vladimir Poutine également, en même temps, la guerre de l'Ukraine, n'est-il... Enfin, je vous pose la question clairement, est-ce qu'il n'est pas en train de perdre cette guerre? D'abord, Gamal Abina, Ramzan Kadyrov, promu général, ça veut dire quoi? Comment doit-on le comprendre?
Alors, en dépit de certaines choses qui sont dites parfois quand je prends la parole sur la question russe, je ne suis pas poutinolâtre, loin s'en faut, et je considère que Kadyrov est un barbare. Voilà, les choses sont dites, c'est quelqu'un qui n'a absolument pour moi aucune forme de crédibilité en termes de qualité d'homme, c'est quelqu'un qui était extrêmement violent pendant la guerre en Tchétchénie, c'est quelqu'un qui est le fils d'un homme qui a été tué dans un grand
attentat. Qui lui-même a été...
dans un stade, donc, et si le père a été tué dans un stade, c'est que vraiment il a généré une haine totale de la part des résistants tchétchènes qui ont quand même pris cher, 300 000 morts sur 800 000 habitants,
énorme.
C'est quand même énorme. Et donc Kadyrov, c'est un peu le bras armé de Poutine dans la région. Alors pourquoi le nommer généralissime littéralement? C'est un peu une sorte de nomination là, comme Hitler quand il nommait ses Oppenfuhrer, je ne sais quoi, il les nommait maréchal pour faire en sorte qu'il garde une forme comme ça d'agressivité. Il a été nommé pour ça pour deux raisons. La première, parce qu'il représente ce qu'on appelle traditionnellement en Russie les zones combattantes. C'est-à-dire qu'on parle des Tatars, des Tchétchènes, des Ingouches, toutes ces zones du sud de la Russie qui étaient considérées comme étant des... Traditionnellement, je n'ose pas dire, même pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était eux qui étaient mis en avant. Et donc, effectivement, ils veulent créer une sorte d'engouement comme ça, derrière Kadyrov, pour dire, voilà, on fait une promotion considérable.
Et puis, il le promet parce qu'il a attendu. C'est parce que, aussi, la guerre a été gagnée sur deux villes, Mariupol et...
Oui, de son côté, absolument.
Attention, de son côté aussi, ça aussi. Hein.
Et là, étrangement, le personnage qui n'est pas vraiment musulman dans l'absolu joue la carte de l'islam pour essayer de fédérer derrière lui. Donc Kadyrov, effectivement, est nommé pour ça pour une question de symbolique et surtout parce qu'effectivement, il y a un basculement actuel de la guerre. On sent bien qu'il y a un frémissement. On sent bien que Poutine a été surpris par cette contre-offensive qui était inattendue, qui était bien organisée au demeurant, qui n'était pas du tout. Qui a été sous-estimée par la partie russe. Et aujourd'hui, ils ont besoin de renforcer leurs troupes. Alors, il y a un appel à 300 000 soldats supplémentaires, apparemment. Ils veulent atteindre le million. Donc on est sur quelque chose de très lourd. La guerre s'intensifie.
La guerre s'intensifie. Qu'est-ce que vous pensez, évidemment? Vous partagez cette analyse, mon cher Thierry Vincent. Qu'est-ce que vous en pensez?
En partie, ben, alors, je ne vais pas revenir sur la barbarie, effectivement, de Kadyrov, hein, qui est un criminel de guerre, hein, faut bien tout le fait. Dire. Ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est vrai, bon, les Tchétchènes ont une réputation, ça fout la trouille, hein, bah, voilà, ça, on les imagine vraiment des combattants barbares, donc il y a cette dimension-là, mais surtout dans le sud ou dans les provinces, disons, les républiques reculées de Russie, il y a eu quand même pas mal d'incidents. Au Daghestan, il y a eu des manifs anti-guerre, avec même des femmes d'ailleurs qui disent, c'est pas seulement la conscription, qui disent, l'Ukraine, ils ont pas attaqué, c'est nous qui les avons attaqués, et on n'a rien à foutre de votre guerre. Et c'est vrai que c'est là-bas qu'il va recruter, chez les bourriades, chez les populations qui sont très loin, qui ne sont pas très concernées, qui sont pauvres, etc., beaucoup plus qu'à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Et là, bon, effectivement, il a un des dirigeants connu en plus d'une de ces républiques périphériques qui espère peut-être entraîner un peu plus les caucasiens ou ces républiques périphériques dans la guerre. À mon avis, il aura du mal quand même, mais bon. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, en fait, cette nomination.
J'aime bien que Thierry...
Poutine a-t-il perdu la guerre ou pas du tout?
Bah, Oui, oui, par rapport à ses buts de guerre d'origine. Enfin, je pense que quand même au début, enfin, tout le monde pensait qu'en 10 jours, il allait prendre Kiev. Hein. Faut rappeler qu'il était à 10 km, ils étaient à 10 km de Kiev, hein, les Russes. Ils avaient pris Kharkov, hein, Kharkiv, pour le prononcer en ukrainien, et ils sont repartis. Enfin, et là, bon, bah, voilà, ils gagnent du terrain, les Ukrainiens, ce qui surprend tout le monde, hein. Mais ça rappelle quand même que dans la guerre, d'abord, elle est pas si bonne que ça, l'armée russe, et ça rappelle que dans une guerre, on peut prendre l'exemple de la guerre d'Algérie, hein, d'ailleurs, hein, les Français, ils étaient plus forts, hein, s'ils avaient voulu massacrer tout le monde, enfin, je veux dire, militairement. Mais quand il y a une population qui est plus motivée que, ou une armée qui est plus motivée que l'autre, le résistant, il a quand même un avantage, hein. C'est, voilà, ils sont plus motivés, les Ukrainiens, ils défendent leur pays, les Russes, et puis en plus à la télé russe on commence à dire que c'est voilà que c'est pas si
depuis quelques jours ça,
que, ouais depuis quelques jours
depuis quelques jours
bon. Gamal Abina, vous dites quoi?
J'apprécie déjà le fait qu'il ait rappelé que c'était des Caucasiens. C'est vrai que l'image du Caucasien en Occident et aux États-Unis c'est le blanc. Bah non, c'est pas les blancs dans cette région là ils sont pas blancs, c'est comme ça, c'est un fait. Alors oui, effectivement, alors est-ce qu'ils ont perdu la guerre? J'irai jamais dire qu'ils ont perdu la guerre parce que ce serait ridicule. Est-ce qu'ils ont perdu la guerre stratégiquement par rapport au but des guerres inscrits? Oui, effectivement, on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que les Russes pensaient remporter la victoire en 10 jours ou 20 jours ou un mois. La résistance est organisée parce que du côté ukrainien il y a deux Ukraine. Il y a l'Ukraine russophone d'origine russe et l'Ukraine qui n'est pas russophone et avec une tradition qui est un petit peu plus occidentale, entre guillemets. Et ce qui se passe, c'est que cette attaque a été faite de façon un petit peu, presque, on a l'impression que c'est improvisé. Je pense qu'ils n'avaient pas vraiment précisé ce qu'ils voulaient. Ils se seraient.
D'ailleurs, Moscou promet de récupérer les territoires qui ont été perdus, annexés.
Tout à fait. Ils vont les récupérer au prix d'un sang monumental. C'est là où vraiment j'ai du mal avec ça. C'est-à-dire qu'on sait que les Russes, qui viennent de se faire humilier avec une défaite d'une bataille, pas une guerre, parce qu'il ne faut pas confondre guerre et bataille, c'est deux choses différentes, sont en train de subir exactement ce que les nazis avaient subi en Union soviétique à l'époque où il y avait ces fameux partisans. C'est-à-dire que la Russie, les nazis étaient rentrés facilement en URSS. Et se sont pris des partisans et la guerre d'usure à partie arrière des forces allemandes a détruit totalement la logistique et a détruit l'armée allemande. Et bien là c'est pareil, ce qui se passe c'est qu'en Ukraine, effectivement c'est un très grand pays, hein. On se figure pas la taille du pays, c'est monumental. Et quand les Russes envoient des troupes en poste avancé, comme juste quand ils vont jusqu'à Kharkiv ou Kharkov en version russe, ou alors simplement quasiment à la frontière de la capitale ukrainienne, et bien ils s'arrêtent. Pourquoi ils s'arrêtent? Il y a deux lectures. Soit parce qu'ils ne veulent pas s'allier des populations en détruisant les capitales. Effectivement, ce serait mal vu. Ils vont pas les faire une Tchétchénie bis. Grosny, c'est plus possible. Ou soit simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de la prendre, cette capitale. Et c'est le sentiment que ça donne. Mmh. Et c'est vrai que lorsqu'une population est sur une posture défensive, et c'est le cas de l'Ukraine, au moins occidentale, qui n'est pas pro-russe, ça ne fonctionne pas. Mais moi, je vois le tableau final.
Donc, reprendre les territoires, pas possible.
Poutine vient d'annoncer que la centrale nucléaire de Zaporozhye était annexée. Ça dit un truc. Ils la possèdent toujours, hein. Ils vont pas reprendre tout le territoire, les Ukrainiens, parce que le problème, c'est que, effectivement, sur le territoire pro-russe, il y a des chances que la partie russe résiste. Sur le territoire pro-ukrainien, les Russes vont perdre.
Les territoires perdus.
Ce qu'ils appellent perdus, c'est la partie annexée, voilà. Donc tout ce qu'on appelle les deux grandes régions de Lugansk et de Donetsk, donc ce qu'on appelle effectivement l'est de l'Ukraine et le Donbass. Donc cette région-là, ils vont pas la prendre. Bon, la Crimée, on oublie parce que la Crimée, traditionnellement, les Russes ont toujours considéré que c'est chez eux, donc ça règle la question. Donc ce qui va se passer, c'est que les Russes vont taper fort, je pense, en retour, pour montrer qu'ils n'ont pas été humiliés, parce que c'est une question maintenant de soi-disant pas perdre la face. Et en même temps, les Ukrainiens vont montrer qu'ils résisteront fort aussi, parce qu'il y a quand même une forte résistance. Et ça risque vraiment de donner des théâtres de bains de sang considérables qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, pour l'instant.
Allez, oui, juste, Thierry Vincent, avant d'aborder la question.
Le fait que maintenant les Russes disent nos buts de guerre, c'est juste de reprendre les territoires qu'on a perdus, ça prouve quand même c'est déjà une défaite, même s'ils arrivent à ça, ce qui n'est pas certain, c'est pas terrible quand même, hein.
Ouais, c'est une reculade, c'est vrai.
Effectivement.
Ouais. Le but de guerre, au départ, il faut l'initier, hein. C'était démilitariser l'Ukraine, elle est surmilitarisée, malheureusement. Ouais. C'était empêcher qu'elle soit dans l'OTAN, on n'est pas certain qu'elle n'y rentre pas. Et surtout, c'était de libérer libérer du point de vue russe, la moitié de l'Ukraine des zones russophones.
Plus, ça favorise l'OTAN, finalement.
Oui, de largement.
Poutine, il a relancé l'OTAN, hein.
Bah, ils sont sur place maintenant.
Bah ouais.
Danielle Bonneau, la députée, justement, elle dérape à l'Assemblée, elle est sanctionnée. Et elle répond, prenez tout, je m'en fous, rien à foutre. ça vous fait sourire. Est-ce qu'elle n'a pas finalement dérapé?
Ben non, elle n'a pas dérapé. Non, vous savez pourquoi elle n'a pas dérapé? Simplement parce qu'il y a une chose qui...
Je pose la question.
Dans le niveau de politique, et là je pense que Thierry sera d'accord avec moi, le niveau du nivellement par le bas de la politique, l'expression orale, la qualité des mots, la vulgarité, on l'a entendu récemment avec M. Macron, qui c'est quand même, sans toucher une, sans faire bouger l'autre, c'est quand même très très vulgaire. Il répète un propos qui a été prêté à Jacques Chirac, dont on n'est même pas sûr que c'était vrai, mais quoi qu'il en soit, c'est un propos privé, pas public. Là, devant une caméra, on y va. Donc tout le monde se lâche. Donc j'ai envie de dire que Danielle Obono, qui a pour particularité de ne pas être blanche, ça le problème. Lorsqu'elle va s'exprimer pour utiliser un vocabulaire qu'on utilise dans la rue, à savoir manger vos morts, c'est un truc qui est utilisé par les gitans, tout le monde y rentre dedans. Bah moi, j'allais dire qu'elle est beaucoup moins vulgaire que certains politiques qui s'expriment avec un vocabulaire faussement populaire, parce qu'on sait très bien qu'ils sont très éduqués, ils viennent de grandes écoles. Alors qu'elle dit, mais moi je m'en fous, je fais ce que je veux. Eh bien, j'ai envie de, là-dessus, je, j'aime pas.
Elle dit, prenez tout, je m'en fous, rien à foutre.
Mais oui, mais moi, j'allais dire, là au moins, elle n'a pas l'hypocrisie des autres. Parce que moi, quand je vois un Sarkozy qui fait semblant de mal parler le français, qui utilise un vocabulaire mal approprié, qui se trompe en termes de concordance de temps ou de genre, enfin, c'est fausse faute d'expression, alors qu'il a été éduqué dans les meilleures écoles de l'Élysée, j'y crois pas. Donc, elle au moins, elle a pour elle cette qualité. Après, je précise, je déteste le nivellement par le bas, et malheureusement, elle y participe.
Thierry Vincent.
D'abord, il faut rappeler que Danielle Obono, hein, elle vient pas. Alors, elle n'est pas blanche, mais enfin, elle vient d'un milieu bourgeois. Hein, son père était candidat, enfin, plutôt privilégié en Afrique.
C'est
hein,
vrai.
Elle
n'est pas des cités. Hein. C'est vrai.
Il a été candidat à l'élection.
C'est important ce que vous dites, Thierry Vincent.
C'est vrai.
C'est vrai. Il mérite une clochette. Ah, il a une punchline. Il vient de mettre KO Gamal Abdina là.
C'est un prolétaire.
Il vient de lui rappeler que c'est pas parce qu'elle est noire qu'elle vient des quartiers. Gamal Abdina a fait un raccourci. Être noir, ça veut dire combien forcément. C'est moi des quartiers populaires. Et Thierry Vincent vient de lui dire, eh bien non, chers amis. Elle a les mêmes codes finalement.
C'est bien.
Non, mais c'est des clichés. Il faut un peu arrêter ça. Enfin, c'est pas. Bon, et après Danielle Obono, moi honnêtement, quand j'ai vu, bon, j'ai vu aux morts, je ne sais même pas l'expression, mais moi j'avais rien compris au début à son tweet, parce que ces histoires de rivalité entre féministes, ouais, franchement.
C'est ridicule ça.
C'est ridicule. En fait, je m'en fous. Et je comprends rien et ça m'intéresse pas en fait. Alors parce qu'il y en a qui disent, parce qu'elle dit, on instrumentalise les femmes d'Iran pour discréditer la lutte des femmes en France. Moi au début j'ai rien compris tellement je suis dans ces histoires. Non mais c'est vrai, hein. J'ai rien compris. Après j'en ai rien à foutre, machin. Bon c'est pas. Ça
m'intéresse. Elle est sanctionnée. Est-ce qu'elle a dérapé selon vous?
Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui dérapent, mais oui pour moi elle a dérapé. Oui. Et surtout, je comprends pas ce qu'elle veut dire, en fait. C'est... Moi, je pense que tant que la gauche, elle sera dans ces espèces de conneries de rivalité entre féministes, de parler des woke.
Elle a été rappelée à l'ordre, hein, par la présidente, hein, de l'Assemblée
c'est
nationale.
C'est normal, dans son rôle,
là. C'est normal.
Et elle a un procès verbal, hein.
C'est mignon, il y aurait.
Inscription, procès verbal.
Oui, ça va pas aller bien loin.
Non, ça va pas aller bien loin, mais c'est sur le fond, enfin, tant que la gauche sera dans ces trucs, on est woke, on n'est pas woke, les islamo-gauches, ils débattent à la con, comme ça, franchement, elle y arrivera jamais. La gauche, c'est, faut revenir à, aux fondamentaux. La gauche, elle défend les prolétaires et les classes moyennes contre ceux. C'est ça, la base, hein.
Bien sûr.
Contre les privilégiés, mais on n'entend plus ça. On a l'impression qu'ils sont des espèces d'histoires.
Ouais, enfin, c'est les chiffonnades.
Oui, mais des histoires qui intéressent personne. Enfin,
un truc tout bête, qu'elle soit pauvre con, je suis désolé, ça manque de classe, hein, qu'elle soit pauvre con.
Ah, bah oui, ça, on est d'accord.
Et là, on est vraiment tombé très bas. Non, ouais. J'allais dire simplement, Comelot, c'est bien de le rappeler, parce que là, j'ai fait un peu la passe volontairement dessus. C'est vrai que c'est pas une fille de pauvre. Hein. Mais la France Insoumise véhicule l'idée d'un parti un petit peu prolo. J'ai envie de dire plus de sympathie pour un Corbière ou pour sa femme. Qui sont un peu plus de la basse couche de la société et qui ne s'expriment pas comme ça, d'ailleurs, je le rappelle. Mais c'est vrai que là-dessus, on est vraiment, c'est pour ça que je parlais nivellement par le bas, on est dans la vulgarité, on est dans l'invective, il n'y a aucun débat d'idées.
Non.
On ne défend plus rien, le capital et l'ultra-capitalisme a gagné et ces gens-là ne bien se sûr. Battent plus contre ça. La dernière fois qu'on a vu un hypocrite, j'utilise le terme à dessein, hypocrite, bien lourd comme terme, qui disait que son ennemi c'est la finance internationale, il s'appelait François Hollande, on a vu le résultat. Il a fait.
Ouais.
C'était quand même pas mal, il nous a quand même pondu Macron derrière, il était pas mal. Donc j'ai dire que quand Obono fait ça, le fait, c'est de bonne aloi. En même temps, c'est vulgaire, c'est vrai que c'est pas très, très élégant. Mais vu la collection de stupidités dites par d'autres, c'est pas la pire.
Non, c'est mais enfin, il y en a un peu. Il y en a un peu là, en fait, que le débat se cristallise sur des conneries pareilles. Elle a dit mangez vos morts, c'est pas bien. Enfin, pourquoi elle dit ça? On sait plus le fond de ce qu'elle voulait dire. Enfin, les gens, quand ils entendent ça, sur quoi se chiffonnent les politiques, alors qu'ils sont en train de se dire j'ai plus de quoi bouffer, les prix augmentent au franc prix, c'est une catastrophe, comment je vais me chauffer et tout. Et on a la gauche qui se divise sur des histoires pareilles. Non, mais ils sont complètement à côté de la plaque.
Après, le féminisme, ça c'est intéressant que tu aies d'ailleurs mis l'accent dessus. On a un féminisme d'État quasiment presque institutionnel, c'est Badinter. C'était le porte-parole. Il y avait l'antimatière de Badinter que j'ai connu d'ailleurs, qui était très sympa. Mais quoi qu'il en soit, on a Christine Elfi, qui était pas mal aussi. Donc c'est ces fameux signataires des manifestes, les
343 salopes.
Enfin, c'est ce qui avait été dit par Charlie Hebdo à l'époque. Hein. Mais en réalité, c'est ce qui est resté. C'est un combat féministe qui était louable d'ailleurs. Hein. Ça faisait monter un peu le débat quand même, parce qu'on parlait de réappropriation de son corps, des droits à la vie, tout ça. Aujourd'hui, on est sur un féminisme où ils se sont battus d'un côté féminisme islamique, féminisme de droite, féminisme de gauche, féminisme je suis pro ou je suis anti-iranien. Enfin, c'est d'une stupidité abyssale. Moi, je pense que le féminisme, ça commence d'abord d'abord, hein, par la proximité, défendons-moi les femmes en France pour commencer, parce que le féminisme en Iran, à mon avis, il y a déjà du monde pour s'en occuper, et c'est pas nos affaires.
Absolument.
Même si c'est grave ce qui se passe en Iran, c'est pas le combat. Aujourd'hui, on devrait s'intéresser aux difficultés des femmes en France.
01 53 48 3000, si vous souhaitez réagissez. Si vous souhaitez intervenir ou interpeller nos débatteurs, n'hésitez pas, 01 53 48 3000. Je vous attends bien sûr au standard, on vous attend au standard, 19h09 précisément. Violence psychologique, Julien Bayou qui, j'ouvre les guillemets, instrumentalise cette affaire à des fins politiques. Vous savez qui parle comme ça ? Eh ben, c'est l'avocate de son ex-compagne qui estime évidemment que Julien Bayou instrumentalise complètement cette affaire pour se victimiser et essayer de faire la peau à une de ses opposantes, Gamal Abina.
Alors, j'ai connu Julien Bayou, enfin, je vais parler un petit peu parce qu'on était sur quelques causes communes, par exemple à le 17 octobre ou le 8 mai 45, il était présent. Donc là-dessus, on ne peut pas lui retirer cette qualité. C'est quelqu'un qui a une famille intéressante, hein, porteur de valise pour les parents, enfin, quelqu'un d'intéressant. Après, le profil d'un Julien Bayou en violence physique, je ne crois pas du tout. Il n'a pas du tout le profil. Le profil de peut-être violence psychologique, peut-être la séduction par le pouvoir, hein, parce qu'on connaît la musique, possible. Mais en même temps, j'allais dire, depuis quand ? Et là, je rejoins totalement un homme pour lequel je n'ai pas de sympathie particulière, mais il a raison. Il a un peu inquiété aussi à ce moment. Je parle donc du ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui dit qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait le tribunal du peuple. Et il a raison. Il a raison pourquoi ? Parce que le tribunal du peuple, ça rappelle on parle des sombres heures de l'histoire, c'est les nazis qui avaient installé le tribunal du peuple, il faut s'en souvenir. Hein. Roland Freisler, qui était connu du grand public, c'est quelqu'un qui était le tribunal du peuple. Et ça, c'est un déni de droit et c'est un déni qui ne veut rien dire. C'est, si quelqu'un vous accuse de quelque chose, vrai ou fausse, c'est pas important, on ne peut pas lui faire un procès en intention, c'est pas possible. Ça doit être, d'abord, il doit y avoir une enquête et ça doit être sanctionné par la loi. Que sa femme dise aujourd'hui, enfin sa femme, son ex-compagne, dise qu'il instrumentalise pour faire pleurer dans la chaumière, bon, alors je sais pas s'il instrumentalise, mais il se trouve qu'elle ne parlait pas de cette affaire. Ça a été une fuite, déjà. Donc ça vient pas d'elle, on le sait. Il se trouve qu'elle parlait pas de ça et c'était tout à son honneur. Ça a fuité, il y en a qui en ont profité pour le désinguer, donc je connais une des personnes qui a mis le paquet dessus, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a un problème. C'est-à-dire que cette histoire qui est périphérique, on revenait alors aux questions sociales, fait complètement l'impasse sur la question sociale. Après, c'est parti, on dit, nous serons les plus sains, on s'est rappelé de Macron qui était le plus sain aussi, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de petits sains en politique. Il n'y a que des gens qui ont des ambitions et qui ont des défauts, c'est normal.
Thierry Vincent, et après je vous poserai la question, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, tout simplement, de pouvoir au sein d'Europe Écologie Les Verts, à la fois entre Sandrine Rousseau, mais également aussi Julien Bayou. C'est peut-être ça aussi. Hein.
Bon, les Verts nous ont habitués à être ridicules, hein, depuis très longtemps, bon, enfin ça je reviendrai dessus.
Mais il est bon,
non, c'est quand même un petit peu fort de dire que Julien Bayou instrumentalise cette affaire. Il n'a rien demandé à personne, lui. Sandrine Rousseau raconte comme ça qu'il aurait commis... Alors, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de groupe de barbouzes féministes, enfin, secrets, qu'est-ce que c'est que ça, qui vont espionner Julien Bayou pour... Moi, je ne sais même pas ce qu'on lui reproche, en fait, à Julien Bayou. Alors, on l'attaque là-dessus, il ne peut pas se défendre. Et on dit que c'est lui qui instrumentalise. Enfin, on marche sur la tête. Ouais. Et qu'est-ce qu'on lui reproche, en fait ? C'est pas du tout le même cas que Katniss, hein, qui a reconnu avoir donné une gifle. Bon, ce qui est pénalement répréhensible, ça n'a rien à voir. Moi, de ce que j'en sais de cette histoire, il y a une rupture difficile, comme ça arrive souvent.
Absolument.
Comme j'ai vécu aussi, comme beaucoup, la plupart des gens ont vécu, où ça se passe pas bien, en tout cas au début. Et apparemment, la compagne aurait commis, de ce que j'ai compris, hein, l'ex-compagne aurait fait une tentative de suicide. Écoutez, ça prouve pas que Julien Bayou a commis des violences psychologiques. Il y a des ruptures dramatiques qui et dans les deux sens. Hein. Il y a aussi des hommes bien qui sûr. Se suicident après. Enfin,
je veux dire, qui tentent de le faire, du moins.
Bah, pardon ?
Ou qui tentent de le faire.
Ou qui tentent de le faire. Enfin, je veux dire, c'est moi, j'ai connu des cas dans mon entourage. Enfin, et alors, on accuserait l'homme ou la femme, parce que ça arrive aussi dans l'autre sens, d'avoir commis des violences psychologiques. Mais qui peut juger de ça ? Qui peut juger de ça ? Et je trouve que Julien Bayou peut pas se défendre. On est en train de lui flinguer sa carrière. Alors, bon, les Verts nous ont
habitués. Non, mais attendez, il n'y a pas justement un jeu de pouvoir. Ah,
évidemment, mais enfin, c'est les Verts, ils sont juste ridicules depuis le début de leur existence. Enfin, il y avait Cohn-Bendit un peu qui avait réussi à les unir, mais chaque fois ils nous font le même sketch. C'est-à-dire que l'environnement, le réchauffement climatique, etc., est un des enjeux majeurs de l'avenir, et ils arrivent, le Parti écologiste, à s'embrouiller sur des conneries pareilles. Mais et chaque fois c'est le même sketch. Ils font un bon score aux européennes, alors, ils se sentent plus pissés, et puis aux présidentielles ils font 3 ou 4%. C'est juste un parti ridicule. Non, mais c'est vrai,
Gamal Abina.
Ben moi j'allais dire un truc. C'est vrai qu'il y a une chose qui vient d'être soulevée par Thierry, c'est la gravité des faits. Parce que quand même, moi j'ai du mal à comprendre. D'abord qu'on fasse un tribunal populaire, c'est une chose, mais surtout on peut pas comparer un Katniss qui met tard dans la gueule. C'est quand même là, on tombe quasiment, on va peut-être dans du pénal. Hein, c'est pas sûr, parce que c'est une qualification évidemment. Et de l'autre côté, une potentielle possible peut-être violence psychologique parce que il y a une rupture qui s'est mal passée. Eh bien. bien moi, je trouve ça inadmissible et je trouve pas normal qu'ils doivent se mettre en retrait alors qu'il n'a pas été sanctionné par la justice. Et la seule chose qui compte, c'est la justice. Et c'est vrai que les Verts, et là, moi, j'en veux aux Verts, parce que je connais beaucoup de Verts, beaucoup d'amis des Verts. J'ai une copine qui est députée maintenant, formidable. Je l'en veux parce qu'il nous parle de tout, sauf de l'essentiel.
Ouais,
le réchauffement climatique, planter les arbres à Paris, faire en sorte qu'on respire mieux, réduire la pollution des véhicules quand on est en des zones d'exclusion, ça, ils n'en parlent jamais. Moi, les Verts, je leur veux, j'ai parlé à l'époque à Bayou, je dis, on a un problème avec le périph', c'est une horreur. Si on ne peut pas le supprimer, au moins qu'on leur fasse des forêts autour pour qu'on supporte la pollution. Mieux, eh bien, non, on ne s'est pas réfléchi, alors qu'on a 10, 20% maintenant d'enfants qui sont asthmatiques consécutivement à ce périph', ça devrait être remplacé, ça. Mais malheureusement, ça n'est
pas. Allez, on va marquer une pause, 19h15, et on se retrouve notamment avec les autres sujets qui ont retenu notre attention, Gamal Abina, mais également Thierry Vincent, mais vous aussi, au 01 53 48 3000 si vous souhaitez intervenir. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
19h20, et c'est la dernière ligne droite, justement. Concernant les informés, 01 53 48 3000, vous pouvez nous appeler. Le face-à-face avec Thierry Vincent, journaliste. Le face-à-face également avec Gamal Abina, qui lui est porte-parole de plusieurs associations, notamment. Et celle la plus connue, d'ailleurs ?
MDC, maintenant.
MDC, absolument. Allez, messieurs, tout de suite. Alors, je voudrais, juste petite question concernant Julien Bayou. N'est-ce pas, finalement, entre lui et Sandrine Rousseau, un enjeu de pouvoir au sein d'Europe Écologie Le Vert, depuis le départ ?
Oui, évidemment. En politique, on ne se fait jamais de cadeaux. C'est toujours des coups de crasse.
Des coups bas.
Oui, des coups bas. Mais bon, Rousseau a une énorme ambition qui ne peut pas ne pas être dissimulée. C'est évident qu'il fait feu tout bois. Lui, Bayou, qui est beaucoup plus retenu, beaucoup plus... C'est pas un personnage... On peut dire que c'est un personnage charismatique. Hein. Il est monté très fort, mais c'est un personnage assez effacé, qui n'est pas méchant dans l'absolu, quand vous voyez. Mais il n'en impose pas par sa carrure, il n'est pas très grand, par son style, par son phrasé. Je l'ai entendu prendre la parole à l'époque, j'ai assisté à son meeting de lancement à Paris. C'est pas non plus extraordinaire. Donc, quant à elle, elle est maligne parce qu'elle a une grande gueule. Elle s'est présentée, elle a de la prestance. Après,
elle a du charisme.
Totalement. Bah, j'aime pas trop ses positions. Elle est pas de mauvaise partout, mais on sent vraiment quelqu'un qui a les dents méchamment longues. Hein. C'est une sorte de mini Sarkozy au niveau des Verts, c'est un peu light. Hein.
Je crois que cette histoire-là va la planter en fait, hein, parce qu'elle est beaucoup trop clivante pour avoir un quelconque avenir politique. Et là, c'est quand même Julien Bayou l'agressé. Je suis désolé. Hein.
Ouais.
On va sortir des trucs privés alors que. On sait même pas ce qu'on lui reproche. Enfin, moi, voilà, il y a une rupture qui se passe mal, oui, bon. Enfin, il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de, enfin. Là, c'est vraiment la police des mœurs, quoi. Ouais, c'est ça, le paradoxe, c'est que les néo-féministes en finissent à défendre une espèce de puritanisme, comme les télévangélistes américains, ou effectivement les mollahs iraniens. Enfin, c'est ridicule, quoi.
Allez, dernier sujet, c'est la réforme des retraites qui continue de faire débat. Vous savez, depuis aujourd'hui d'ailleurs, le ministre du Travail, eh bien, il reçoit les différents acteurs, partenaires sociaux, pour une discussion qui va durer, me semble-t-il, jusqu'à mi-décembre. Est-ce que le débat concernant la concertation avec les partenaires sociaux, qui eux, on le sait, sont farouchement opposés, peut s'installer ? Est-ce que la réforme des retraites peut avoir un espoir ? Alors,
j'ai hâte d'entendre la réponse de Thierry parce qu'il est expert en matière de sources internes de gauche. On a déjà parlé. Bon, en substance, je pense que Macron, qui a tenté, qui espérait avoir une assise totale à l'Assemblée, n'a plus. Donc, c'est compliqué d'obtenir un vote totalement favorable à ces réformes. La réforme des retraites, c'est pas d'hier. Ça fait comme son premier quinquennat. Il y a passé un temps fou. Ça crée des tensions à n'en plus finir. On se rappelle qu'avant le Covid, c'était les manifestations contre. Qu'il y a eu le Covid qui a calmé un peu le jeu, donc ça a un petit peu cassé le truc. Il n'a pas pu le passer en douce parce que c'est trop gros. Le problème de la réforme des retraites, c'est les retraites de qui d'abord pour commencer ? Parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a un aspect particulier. C'est les retraites du secteur public. Le privé n'est pas concerné. Nous, on est tous à la même enseigne. On n'a droit à rien. Alors que le public, c'est vrai
qu'il a droit à rien. Un peu quand même.
On n'a pas les mêmes avantages. Et c'est normal. C'est normal parce que le public était protégé traditionnellement avec le Conseil national de la résistance à faire en sorte que voilà. Et donc aujourd'hui, on a un secteur public qui est inquiet. Je le comprends parce qu'ils ont toujours travaillé de la même façon, toujours espéré cotiser de la même façon et ne pas être dans le tronc commun des retraites générales, on dira. Et ce qui se passe, c'est que lui veut faire une force. Alors le problème, c'est que c'est l'administration qui va se liguer contre lui et qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation des fonctionnaires, ça fonctionne. C'est-à-dire que les manifestations sont monstres. Donc aujourd'hui, il tente ce qu'il ne sait pas faire. Hein. Macron n'est pas un homme de dialogue. C'est un homme qui écoute. Qui dit ouais, cause toujours, et il fait ce qu'il veut. Mais là, il ne peut pas dire fait ce qu'il veut parce qu'il est obligé de concerter. Et la concertation ne peut pas aboutir parce que personne n'est d'accord sur le processus qui va conduire
sur
à
cette
réforme. Ce sera une mini-réforme qui n'aboutira à rien comme d'habitude.
49-3.
Non, il ne fera pas parce que c'est trop dangereux. Il sera obligé de dissoudre après. Donc il ne peut pas s'exposer à ce point.
Thierry Vincent, tiens.
Ouais, enfin moi, ça fait 20 ans hein, que j'entends parler de la réforme des retraites, 95, etc. Et
20 ans ? Donc avec Rocard, quoi.
Avec Juppé, non,
Juppé. Ouais, enfin, Juppé, 25 Juppé, ans, Juppé. 95, bon, déjà.
Ouais, parce que Rocard,
moi, j'en ai un peu ras-le-bol. En fait, le truc, c'est que, d'abord, on sera concerné, nous aussi, hein, parce que quand on allonge la durée des cotisations, l'âge de retraite, bon, tout le monde sera concerné. Bon, c'est des reculs sociaux.
Hein. Et nous, on discute pas, on le suit.
Ouais, non, bah non. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai un peu ras-le-bol de ce raisonnement d'un sophisme qui consiste à dire, puisque l'espérance de vie augmente, puisque y a moins de cotisants, ben on peut moins bien, voilà, on n'a plus de quoi financer les retraites. C'est complètement faux, puisque en fait la productivité augmente. Donc je vais pas faire des maths, mais je vais le dire, l'exprimer simplement. Puisque la richesse par habitant augmente chaque année, ce raisonnement consistant à dire il y a pas assez d'actifs pour financer les retraités, il est fallacieux. Et on a installé ça dans l'esprit des gens. Et moi ça m'agace un peu parce qu'on nous dit il y a pas le choix. De toute façon il y a pas le choix, on peut pas financer. Hein, on n'a pas le choix. Ben, si on n'a pas le choix, à quoi ça sert de voter alors? Enfin, c'est un choix politique. On est plus ou moins redistributif, mais c'est un choix politique. Ça doit être assumé comme tel. C'est tout. Et bon, eh ben, il y a eu la réforme. Enfin, la gauche aussi hein, fait des.
Alors, a-t-elle eu cette réforme?
Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça a traîné ailleurs. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'on va la faire cette réforme. On l'a fait par petits bouts comme ça. Oui, il y aura un petit recul social de plus. Faut pas qu'il soit trop grand pour que les gens se révoltent pas, mais
c'est intéressant, un recul social, parce que c'est vrai que ça met le doigt dessus. C'est-à-dire que la France est un des pays qui a un système social le meilleur au monde, indiscutablement. Oui, oui, on peut dire ce qu'on veut. La redistribution est assez extraordinaire. Et en même temps, il y a des déficits. Sauf que là où on nous endort, c'est qu'on nous parle de déficits dans certaines caisses et d'excédentaires dont on ne parle jamais. CSG, RDS, qui a largement comblé les déficits depuis 5 ans, il n'y a plus de déficit de la Sécu, eh bien, on nous recrée un déficit artificiel. Donc, c'est vrai que l'histoire de la retraite, on n'a pas accès aux comptes, aux grands comptes de l'État, on ne les connaît pas clairement. Ce qui est certain, c'est que c'est une façon de faire en sorte de réduire ces aides directes et d'allonger le temps de travail, c'est vrai.
Allez.
Finalement, de
sortir. Merci, Gamal Abina. Au plaisir.
Un plaisir partagé.
Thierry Vincent, merci, au plaisir.
Eh ben, au plaisir.
Merci, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque soir. Et ça, c'est un plaisir. Bilal Nedman, 20-21, ensuite Vanessa, 21. Demain, on se retrouve avec autant de plaisir, vous le savez. Mais surtout, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.